Marcos, une émission proposée par Michel Niaille.
Bonjour chers amis, pour cette nouvelle émission qui sera consacrée à la deuxième partie de la liberté d'expression dont j'avais parlé la semaine dernière de manière assez générale sur le principe de liberté d'expression dans notre République et aujourd'hui plus spécialement la liberté d'expression par rapport à la pratique religieuse. Alors, je voudrais dire qu'il y a d'abord un lien très fort entre le principe de liberté d'expression, qui est une valeur fondamentale de notre République, et l'idée même de pratique religieuse. Ce lien fort, il a été réaffirmé dès la Révolution française, je l'avais dit la dernière fois, en 1789, par la fameuse Grande Déclaration, dans ses articles 10 et 11, que je me permets de vous rappeler. L'article 10 qui rappelle que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public défini par la loi. Donc cet article 10 montre bien que les pratiques religieuses sont liées à l'idée de liberté de pensée et bien sûr d'expression. Et puis l'article 11 qui en tirait toutes les conséquences de manière plus générale et qui nous dit désormais tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement sauf à respecter l'ordre public. Vous voyez donc que dès le tout début de la Révolution, août 1789, on remet en cause les pratiques de contrôle de la liberté d'expression, notamment en matière religieuse, par la Grande Déclaration. Mais sans qu'il abolisse la Déclaration, Napoléon va avoir un usage beaucoup plus politique des religions et donc va, d'une certaine manière, diminuer la liberté d'expression. Par le concordat et par les articles organiques, il organise le culte catholique et les cultes protestants et israélites, et on comprend bien que l'expression de la foi religieuse sera, sous prétexte du contrôle de l'ordre public, soumise à un contrôle plus étroit de l'autorité administrative et politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si, puisque au-delà de ces quatre religions reconnues, toute autre religion peut s'exprimer, si un certain nombre d'églises protestantes se dénomment églises protestantes libres. Les églises libres après 1801 sont donc des églises qui n'appartiennent pas, ne sont pas soumises aux articles organiques de Napoléon et se développent librement comme toute association. Et c'est intéressant parce que ça veut dire libre dans la gestion, dans la manière d'être, mais aussi dans le discours qui peut être tenu. Et tout le 19e siècle, je vous l'avais rappelé, sera un siècle où petit à petit, la liberté d'expression, notamment à l'époque politique, va se développer. La conclusion, c'est la loi de 1905, article 1 et article 2, et je vous rappelle l'article 1 qui est en sorte un écho à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui rappelle que la République assure la liberté de conscience et elle assure également la liberté de culte, donc d'expression. Et l'article 2 qui précise bien que désormais l'État, la République, ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte. Autrement dit, nous sommes dans une première version de l'idée de liberté d'expression par rapport aux religions. Les religions sont libres par rapport à l'État dans leur expression, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public. C'est le premier point que j'essaierai de développer. Mais il y a un deuxième point qui est un peu différent. Est-ce que les individus ou les groupes peuvent, au nom de leur liberté d'expression, s'attaquer éventuellement aux religions? Est-ce qu'il peut y avoir une liberté d'expression contre les religions? Ce sera le deuxième point. Alors, le premier point qui est le plus important par certains côtés, en tout cas en 1905, c'est la liberté d'expression pour les religions. Les religions sont amenées à pouvoir désormais, ce qui nous paraît évident aujourd'hui, s'exprimer librement. Alors, ce n'était pas aussi évident en 1905 pour un certain nombre de parlementaires, puisque les premières versions de la séparation possible, ou en tout cas des rapports entre l'Église et les Églises et l'État, c'était, selon l'idéologie du petit père Combes, au contraire de contrôler les religions. Donc l'idée de liberté des religions n'était pas aussi évidente. Et il a fallu tout le travail à la fois de Présancé, puis par la suite d'Aristide Briand, aidé par Jean Jaurès, pour qu'on admette que désormais les églises sont des sortes de communautés ou d'associations comme les autres et qu'elles ont le droit de s'exprimer librement. Et donc la liberté pour les religions est un des acquis de la loi de 1905. Qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence ? La première conséquence, si vous le savez, que les religions s'organisent sous forme associative, librement, et cela correspond à leur théologie. Alors, pour les protestants, ça n'a pas posé de problème. La théologie protestante fait que la réunion sous la forme de paroisses, puis de conseils régionaux et conseils nationaux n'a pas de particularité, et les églises protestantes ont adopté tout de suite le moule qui leur était proposé, pouvant à l'intérieur de ce moule déclarer, s'exprimer librement. Ça a été la même chose pour les juifs qui se sont organisés, mais selon la loi de 1905. Mais l'Église catholique, vous le savez, a refusé parce qu'elle a trouvé que les associations qui lui étaient proposées étaient des associations qui potentiellement pouvaient mettre en cause la liberté de l'Église catholique de s'organiser comme elle le veut. Et donc, l'Église catholique a refusé les associations en 1905, ce qui fait qu'un an et demi plus tard, en 1907, il a été admis, pour taire un petit peu ses difficultés et ses critiques, qu'on pouvait utiliser la loi de 1901, qui est une loi beaucoup plus simple, beaucoup plus libérale. Nouveau refus de l'Église catholique qui craignait qu'à l'occasion de ces associations, même 1901, et je dirais au contraire encore plus avec 1901, on ne voit apparaître des associations catholiques qui n'auraient pas été en communion avec l'évêque. Et donc on crée une dissension, un schisme, voire peut-être à terme l'éclatement de l'Église catholique. Et donc il a fallu attendre 1924 pour que la République accepte les associations diocésaines. D'ailleurs, ce n'est même pas une loi, c'est un accord entre le Vatican et le gouvernement de la République. Et vous savez que les associations diocésaines ont un périmètre particulier, c'est le département, en gros, c'est-à-dire les limites d'un évêché. Et c'est, d'autre part, une association dont le président n'est pas élu, il est directement, si j'ose dire, déterminé par l'évêque. C'est l'évêque qui est de droit le président de l'association diocésaine. Donc, première liberté d'expression, déjà dans l'organisation, les associations, soit 1905, soit 1907, et par référence à 1901, soit les associations tout à fait particulières de l'Église catholique, les diocésaines. Deuxième problème qui s'est posé, que se passe-t-il en cas de scission à l'intérieur d'une église? On peut imaginer qu'un groupe fait sécession et veut s'organiser séparément. Alors, pour les protestants, j'allais dire, c'est un sport largement pratiqué. Beaucoup de petites églises sont nées de dénominations nouvelles et aujourd'hui, même le français moyen s'y perd un peu, ne sachant plus quelles sont les limites du protestantisme qui existe dans notre pays. Au-delà du protestantisme réformé et luthérien, les deux seuls cultes connus en 1801 et en 1905, il y a de multiples églises évangéliques, pentecôtistes et de toutes sortes dans lesquelles on se perd un peu. Mais le problème se pose plus clairement pour l'Église catholique, parce que si l'Église protestante ont par définition et théologiquement la possibilité de s'organiser tout à fait librement. En revanche, pour l'Église catholique, il ne peut y avoir qu'une seule Église qui est gouvernée localement par l'évêque et internationalement par le pape. Or, on a assisté dès le XIXe siècle, mais ça s'est multiplié au XXe siècle, à des petites scissions qui quelquefois n'ont pas été plus loin que quelques expériences, mais quelquefois ont gangréné un peu à l'intérieur sous forme de mouvements charismatiques, par exemple l'Église catholique, et jusqu'à ce qu'on a appelé des schismes. Et on se souvient notamment du schisme de Monseigneur Lefebvre, qui avait décidé que Vatican II était pas conforme du tout à la théologie catholique et qu'il voulait revenir à la théologie traditionnelle de Vatican I, qui réaffirmait la puissance du pape, toutes les constructions théologiques autour de la Vierge, autour de l'organisation de l'Église, etc., et qui a créé, vous en souvenez, une sorte de contre-Église catholique. Alors on ne sait plus si c'est à l'intérieur de l'Église catholique ou bien plutôt à l'extérieur, puisque Monseigneur Lefebvre, qui s'était installé en Suisse, avait créé un couvent qui formait des nouveaux prêtres à Écône, et il avait de lui-même, alors qu'il n'était plus en charge d'un diocèse par nomination du pape, il avait nommé de nouveaux évêques et même, évidemment, de nouveaux prêtres. Et donc, c'était organisé une sorte de deuxième église catholique, enfin, qui n'avait de catholique que le nom, puisqu'elle n'obéissait pas à la hiérarchie catholique. Et ça pose un problème, est-ce que ces églises catholiques ont le droit d'exister ? Pour la République, évidemment, ça ne la concerne pas. Chacun fait ce qu'il veut en matière religieuse. Mais le problème s'est posé lorsque un groupe à Paris, notamment, a décidé d'occuper une église, Saint-Nicolas du Chardonnay, et donc au nom de leur liberté religieuse, ont décidé que c'était une paroisse de la nouvelle, si je veux dire, église catholique. Alors, les occupants légitimes et légaux de Saint-Nicolas du Chardonnay ont fait un procès devant les tribunaux de la République. Évidemment, ils ont gagné, puisque c'était eux qui, depuis 1924, étaient les occupants normaux de cette église dans Paris. Et donc, ordre a été donné d'expulser l'occupant. Et évidemment, l'Église catholique, là, n'est pas allée jusque-là en demandant la force publique. Et donc, depuis plus de 50 ans, voilà qu'une église à Paris, l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, abrite la pseudo-contre-église née de Monseigneur Lefebvre. Aujourd'hui, vous le savez, Monseigneur Lefebvre a été réintégré, et il est mort depuis, mais son église, entre guillemets, a été réintégrée dans le sein de l'Église catholique, et donc Saint-Nicolas du Chardonnay redevient théoriquement une église réintégrée, qui reconnaît l'autorité du pape, mais qui a le droit de conserver ses pratiques religieuses, notamment des messes en latin, et une conception très, très intégriste du catholicisme. Donc, on est là devant un exemple de la liberté d'expression d'une partie de l'Église catholique à la limite de, entre guillemets, de la légalité interne de l'Église catholique du fait de cet accord. Plus largement, se pose le problème de ce qu'on appelle les sectes. Est-ce qu'une secte a le droit d'exister ? Pour beaucoup de nos contemporains, ils croient que les sectes sont interdites. Eh bien, c'est une erreur. Il n'y a pas d'interdit, et d'ailleurs, le mot « secte » n'existe pas en droit français. « Secte », ça vient du latin « secare », qui veut dire « coupé ». C'est un petit morceau de groupe qui s'est coupé, qui s'est séparé du grand groupe. Eh bien, au nom de la liberté d'expression, vous avez le droit de faire tous les groupes que vous voulez, de vous émietter en mille petites organisations, et donc de faire, si j'ose dire, des sectes à volonté. Personne ne peut vous interdire de créer, même de manière complètement fantasque, une secte religieuse. Vous vous mettez un chapeau pointu sur la tête, vous décidez qu'une divinité est venue vous visiter, vous trouvez quelques imbéciles qui vous suivent et vous faites l'église des chapeaux pointus. Personne ne peut s'y opposer. Alors vous me direz, mais c'est curieux, pourtant il me semble que là où le droit intervient, c'est si au nom de la création de cette secte, vous vous livrez à des activités, elles, interdites. Par exemple, vous prenez tout l'argent des familles qui adhèrent à votre groupement, vous captez tous les héritages, vous faites travailler les adultes gratuitement, vous les enfermez même s'il faut dans certains lieux, vous obligez des jeunes à vivre en vase clos à l'intérieur de ce groupe, vous vous avez même des pratiques quelquefois qui vont beaucoup plus loin, et je pense notamment à des pratiques sexuelles interdites au nom de la découverte du nirvana. Bref, là, il s'agit de ce que le droit appelle des pratiques sectaires, et les pratiques sectaires financières, du travail non déclaré, de captation d'héritage, bref, d'imposition de normes absolument illégales, là, ces pratiques sont condamnées par le droit. Vous savez qu'il existe depuis une organisation qui a été réintégrée dans le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle la MIVILUDE, qui est la mission de vigilance et de lutte contre les pratiques sectaires, et qui va faire la chasse, la traque à ces pratiques sectaires qui se sont multipliées au XXe siècle et à l'égard desquelles il faut être extrêmement prudent. Et enfin, dernier point, dont vous le voyez, la liberté, elle va quand même très loin pour assurer que, même de manière fantasque, vous avez le droit d'organiser au nom de la liberté religieuse les groupements et les cérémonies que vous voulez. Reste l'usage que nous avions vu en partie la dernière fois de la liberté d'expression à l'intérieur des églises. Vous savez, et nous allons le voir, que la loi de 1905 prévoit qu'on ne peut pas, au nom de la liberté religieuse, dans les pratiques cultuelles, dire n'importe quoi, notamment contre la République et les agents de la République. Et c'est d'ailleurs un des éléments pas ouvertement dit de l'actuel projet de loi sur le renforcement des principes de la République, qui était primitivement baptisé le projet de loi sur le séparatisme, et qui prévoit que les positions qui pourraient être prises par des ministres du culte, et sans le dire, on pense évidemment aux imams, mettaient en balance l'obéissance à la République et l'obéissance à la charia, mettraient en balance au nom de la liberté religieuse, l'autorité de l'État et de la République, et puis le pouvoir ou l'autorité des groupements religieux. Là, les choses sont claires, les groupements religieux ont autorité sur leur groupe, mais ils ne peuvent pas aller à l'encontre des lois de la République. C'est très clair, même si ce projet de loi mériterait d'être encore affiné, parce que il y a déjà suffisamment d'éléments dans la loi de 1905, je vous l'avais montré, pour lutter contre ces débordements anti-républicains. Voilà ce premier point de la liberté d'expression pour les religions. Deuxième point maintenant, existe-t-il une liberté d'expression contre les religions ? Alors, je vous rappelle ce que j'avais déjà dit, mais il faut toujours le redire, que depuis la Grande Déclaration de 1789, notamment l'article 11, tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement, il n'y a plus de délit de blasphème. Ce fameux délit, qui était un délit dans l'État du Royaume de France, qui en fait avait une origine religieuse, notamment catholique, et qui faisait que une déclaration, en plus éventuellement des gestes impies, donc contraires à la piété, était sanctionnée par des mesures d'ordre public. Si vous parliez contre l'Église, si vous disiez que le Christ n'est pas Dieu, que la Vierge Marie n'était pas vierge, si même plus vous faisiez des gestes où vous aviez des comportements ouvertement contre l'expression religieuse, vous étiez condamné par les tribunaux du roi, et on sait que c'est allé quelquefois très loin, puisqu'un des condamnés les plus célèbres vers la fin du XVIIIe siècle, en 1768, est le fameux jeune chevalier de la Barre, qui, à 20 ans, est brûlé vif parce que il aurait, mais on est sûr que ce n'est pas vrai, tailladé un crucifix en bois, et crime encore plus horrible pour l'Église, il ne s'était pas découvert devant une procession qui traversait la rue. Cette déclaration de 1789, qui prévoit que désormais, sauf dans des cas très précis, on ne peut pas attenter à la religion, elle a été renforcée, cette protection, par la loi de 1881 dont j'avais parlé sur la liberté de la presse, qui rappelle qu'en effet, on peut parler, écrire et imprimer librement. La loi de 1881, toujours applicable, ne prévoit que deux cas où on pourrait sanctionner quelqu'un, notamment attaquant les religions. C'est le cas d'injure et de diffamation. Je vous avais expliqué la différence entre l'injure et la diffamation, qui permet régulièrement d'avoir des procès en France où des groupements, souvent des groupements ou catholiques ou juifs, s'en prennent à des organes de presse, à des auteurs de pièces de théâtre, à éventuellement des auteurs de tableaux qu'ils jugent impies, pour demander que cette liberté d'expression contre la religion soit sanctionnée. Vous savez que les tribunaux français, du tribunal de base jusqu'à la Cour de cassation, tempèrent en général ces espèces de folies, de volonté de diminuer la liberté d'expression dans notre pays. Et ceci est relayé d'ailleurs par la jurisprudence des cours européennes de justice qui rappelle que l'élément central, c'est quand même la liberté d'expression, sauf dans des cas où en effet, on peut estimer qu'on est allé trop loin. Très récemment, en janvier 2020, donc il y a un peu plus d'un an, l'affaire Mila a rappelé contre ceux qui continuent à parler de blasphème ou qui disaient qu'après tout c'est bien fait, elle l'a bien cherché, que la liberté d'expression devait être protégée, même si elle utilisait des moyens qui évidemment pouvaient choquer dans certains cas, voire dans certains cas, lorsque ces moyens ont été choisis, ont été volontairement choisis pour heurter l'opinion. Et c'est là où la liberté d'expression, en effet, présente son visage le plus intéressant dans notre République. Il peut y avoir différents moyens de briser, disons, une sorte de silence complice et où certaines personnes, par la parole, par l'écrit, par des images animées, c'est-à-dire des films, critiquent ouvertement les dogmes religieux, les croyances religieuses. Alors, il y a une vieille histoire qui date au moins du Moyen-Âge, par lesquelles on a depuis longtemps fait des dessins, chanté des chansons, dont on a oublié quelquefois le sens profond, et qui était une critique des religions. Et on sait qu'il y a toute une série de décisions qui ont été prises, notamment au XIXe siècle, où on a sanctionné des livres, par exemple, qu'on considérait comme s'attaquant à ce pilier fondamental de la société qui était la religion, donc des interdictions de livres impies. Et puis, on est passé aux images, évidemment, qui étaient colportées et qui pouvaient ridiculiser les religions. Et puis les images animées, aujourd'hui, je pense aux films, qui ont fait l'objet de tentatives par des groupements en général assez intégristes, catholiques ou juifs la plupart du temps, de ne pas laisser paraître sur les écrans des films que l'on considérait comme attaquant trop nettement la religion. Je pense aux films tirés du roman de Diderot, La religieuse, qui montre comment à l'intérieur des couvents peuvent se développer des pratiques, notamment sexuelles ou de violence, qui sont absolument contradictoires avec l'idéal chrétien. Mais aussi des films qui donnent une interprétation, après tout, très libre de la vie du Christ, par exemple. Je pense à La dernière tentation, qui est tirée d'un ouvrage d'il y a quelques dizaines d'années, et où on apprend que finalement le Christ n'est pas mort sur la croix, mais quelqu'un lui a été substitué, qu'il s'est marié avec Marie-Madeleine, qu'il a eu des enfants. Bref, une autre vie de Jésus-Christ, après tout. Pourquoi pourrait-on interdire cela? Évidemment, un certain nombre de religieux, notamment catholiques, ont poussé des grands cris en disant que c'était scandaleux. Mais il y a même des films, je pense à un que j'étais allé voir, qui s'appelle « Passion », et que l'Église catholique n'a pas demandé d'interdire, et qui était une vision assez cruelle et crue du dernier moment, j'allais dire, ou des deux derniers jours de la vie du Christ, depuis son arrestation jusqu'à la crucifixion, et où on hésitait dans l'interprétation qu'il fallait donner de cette vision ultra-réaliste de la passion du Christ. Et puis, on a aussi des images non animées. Je pense notamment à la version de la scène, le dernier repas du Christ, tiré du tableau de Léonard de Vinci et qui devient une marque pour attirer des acheteurs, soit pour acheter des livres, soit, je vous le signale, pour acheter des pizzas. Il y avait à Montpellier une pizzeria qui avait décoré le haut de son... de sa façade par une scène où on voit le Christ distribuant des pizzas à ses disciples. Bon, ben, il y a eu quand même un de mes collègues, d'ailleurs, catholique intégriste, paix à son âme, qui est décédé depuis et qui est allé faire un scandale dans cette pizzeria et qui, en les menaçant d'un procès, les a obligés finalement à badigeonner cette enseigne qui a disparu. Je pourrais vous dire où était cette pizzeria, dans la rue de l'Argenterie. Dans la rue, pardon, de l'Aiguillerie. Alors, plus récemment, et s'attaquant non pas à la religion catholique, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, hein, regardez les bandes dessinées de Claire Bretécher, notamment sur la vie de Sainte Thérèse d'Avila, c'est une vie un peu particulière par rapport au récit qu'en fait l'Église catholique. Mais c'est surtout à l'égard de l'islam que les problèmes se sont posés avec les fameuses caricatures de Mohammed. Alors, c'est très discuté, vous savez, dans l'islam, depuis les origines, de savoir s'il y avait une possible représentation de non seulement du prophète, et encore plus de Dieu, mais même des êtres vivants humains. Et on a une période où l'islam a vécu en Perse, vous le savez, pas simplement en Arabie, où une liberté totale a été laissée. Et on a aujourd'hui encore des exemples d'images où le prophète est présent et quelquefois même la divinité, en tout cas l'ange Gabriel. Par la suite, comme les générations qui ont suivi ont émigré de la Perse vers de l'Iran, donc vers les pays arabes, on a supprimé ces possibilités. Et donc, même ces vieux manuscrits sont quelquefois grattés, de sorte qu'on ne voit plus la figure du prophète. Et donc, l'idée, c'est instaurer que la représentation du prophète était interdite. Et même, ce qu'on oublie, la représentation de tout être vivant. Ce qui fait que dans certaines populations très traditionnalistes, un peu rurales et un peu perdues, par exemple, quand vous vouliez prendre une photo d'un groupe, vous aviez des gens qui disaient non, 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 ou qui sortaient du champ parce que la représentation du corps humain était interdite. Donc il y a ce vieil interdit, a fortiori, lorsqu'il ne s'agit pas simplement de représenter le prophète ou l'ange Gabriel, mais de le ridiculiser à travers des dessins. Eh bien, on a été évidemment secoué par l'affaire dite de Charlie et de la diffusion, au fond, en deuxième main, puisque les premières images avaient été faites en Danemark, dans un organe de presse d'ailleurs plutôt à droite, et que Charlie Hebdo s'était fait le réceptacle de ces images au nom de la liberté d'expression contre les religions. Et là, alors, ça a été un véritable choc qui a d'abord démarré dans les pays arabes. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Et puis, c'est venu par une sorte de contre-coup plusieurs mois plus tard en France avec un procès qui a été intenté à Charlie Hebdo et qu'évidemment, les protagonistes ont perdu. Et aussi bien les tribunaux, le tribunal de Paris que par la suite la Cour de cassation ont reconnu que à partir de la loi de 1881, il n'y avait ni injure, ni diffamation. Il n'y avait pas injure à l'égard de quelqu'un en particulier, et il n'y avait pas de diffamation, on ne voyait pas ce qu'on attribuait au prophète en le caricaturant de mal. Et que donc, même si c'était évidemment une image un peu choc, ça ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression dans ce pays. Vous savez malheureusement la suite de ces affaires avec la fusillade qui a liquidé en quelques minutes autour de la table tous les auteurs dirigeants de ce journal Charlie Hebdo et tout ce qui s'avait suivi, des attentats et des attaques, toujours au nom de la sauvegarde de l'image sacrée, donc non représentable, du prophète. Eh bien, il faut le redire, même si cela choque, la loi de 1881 déclare qu'il ne peut y avoir de sanction que s'il y a une injure à l'égard de quelqu'un de particulier, et là on n'a pas injurié quelqu'un de particulier, ou une diffamation, on n'a pas diffamé, on n'a pas attribué je ne sais quelle mauvaise pensée ou action au prophète. Et vous savez que la fameuse caricature était au fond une espèce de soupir du prophète qui disait que c'est dur d'être aimé par des cons. Et donc, il s'en prenait à qui ? À un groupe, pas à tous les musulmans, au groupe des musulmans les plus intégristes qui, au nom du Coran et de l'islam, vont perpétrer des meurtres. Alors, vous le voyez, cela veut dire que la liberté d'expression contre les religions continue d'être une loi fondamentale dans notre pays et qu'il ne faut pas céder. Et c'est sûr que, dernier état de la question, lorsque un enseignant montre ses caricatures dans une activité pédagogique pour expliquer ce qu'est la liberté d'expression, que d'ailleurs il laisse la porte ouverte si certains ne veulent pas regarder les images, il ne fait que son travail d'enseignant. Et Samuel Paty n'a fait finalement que mettre en œuvre une liberté que malheureusement il a payée de sa vie et qui veut dire que la République ne sanctionne que des actions qui seraient condamnables parce que elles seraient directement engagées contre une catégorie particulière de population avec des arguments très précis ou qu'elles leur imputeraient des actions qu'ils n'auraient pas commises. Donc, mis à part ces réserves restrictives de la loi de 1881, la liberté, heureusement, reste le principe.
Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Et quand il s'assoit dessus, elle lui rentre dans le cul. Il bande, il bande, il bande.
Alors je conclue sur une dernière idée. Est-ce que la liberté d'expression signifie à ce moment-là, quand on est un laïc, que l'athéisme est finalement le maître mot de la République? Beaucoup croient que par la liberté d'expression, c'est l'athéisme qui devient la doctrine dominante. C'est faux. La laïcité n'est pas l'athéisme. L'athéisme est une doctrine parmi d'autres qui pensent que Dieu n'existe pas. A-T-A, qui veut dire sans, théos, sans Dieu. L'athéisme n'est qu'une des possibilité philosophique de penser. Mais ce n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est au contraire la liberté d'avoir toutes les pensées que l'on veut, toutes les doctrines philosophiques que l'on veut, qu'elles soient athées, agnostiques, c'est-à-dire aprivatives, toujours gnose, gnosos. Je n'ai pas d'idée précise, je ne me prononce pas, ou que l'on soit religieux dans toutes les catégories possibles de religion. Donc, la liberté d'être athée, d'être agnostique, d'être croyant même intégriste s'il le faut et religieux, est ouverte, cette liberté, dans notre République. Les seules limites, c'est qu'évidemment, il ne faut pas empiéter sur la liberté de l'autre et surtout imposer à l'autre des pratiques qu'il ne voudrait pas accomplir. Et je vous signale qu'il y a un article oublié de la loi de 1905 qui punit ceux qui obligeront des personnes à adopter des pratiques religieuses alors qu'ils ne le veulent pas. À l'époque, on pensait surtout aux contraintes que des patrons d'entreprises pouvaient exercer à l'égard de leurs employés qui, s'ils n'allaient pas à la messe, n'avaient pas de contrat de travail. Mais cela va beaucoup plus loin. C'est contraindre dans n'importe quelle relation d'autorité quelqu'un à avoir des pratiques religieuses, à exercer au fond une manifestation de croyance alors qu'il ne croit pas ou ne veut pas croire. Eh bien, la liberté de penser, c'est d'abord cela, la laïcité dans notre pays. Donc, je conclus, liberté d'expression, c'est un des éléments fondamentaux de la loi de 1905 et donc de la laïcité. Il faut donc la défendre parce que cette liberté d'expression, pour laquelle malheureusement tant de personnes sont mortes depuis des siècles, continue d'être aujourd'hui encore un enjeu dans notre République. À bientôt.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.